Parmi les besoins essentiels de l'homme, il faut écrire en tête de liste l'eau et la nourriture. Mais presque aussi important est la nécessité de trouver un abri, une protection contre les éléments naturels et les prédateurs, qu'ils soient animaux ou d'autres êtres humains. Pour cette raison, nous avons en France des châteaux un peu partout et ils sont tous construits sur une hauteur car beaucoup plus facile à défendre que le fond d'une vallée. Les villes antiques étaient entourées de murailles pour mieux se protéger contre un ennemi éventuel et les châteaux étaient en plus entourés de douves. C'était aussi le cas de Ninive, mais d'autres villes puissantes n'avaient pas besoin, en théorie du moins, de fortifications parce qu'elles étaient construites à un croisement de masses d'eau. C'était le cas de Thèbes, en Égypte, qui était comme un îlot au milieu d'une mer. À cause de sa situation géographique et de ses puissants alliés, cette capitale se croyait à l'abri de tout danger. Je continue à lire dans le chapitre 3 du livre de Nahum. Es-tu plus prospère, fort et nombreux que nos Amon, qui étaient assises au milieu des fleuves, entourées par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille? Verset 8. Nahum s'adresse à Ninive et la compare à nos Amon, le nom égyptien de la ville de Thèbes. Ce mot signifie la maison d'Amon, une divinité particulièrement prisée, qui était représentée avec un corps d'homme et une tête de bélier. Capitale de la Haute-Égypte et située à 400 km au sud du Caire, la ville antique de Thèbes fut la résidence principale des pharaons les plus glorieux et en particulier de Ramsès XI de la 19e dynastie. Sur la grandeur de Thèbes, Dominique Vivant, baron de nom, précurseur de la muséologie et de l'égyptologie, écrit « On ne peut croire, même après l'avoir vu, à la réalité de l'existence de tant de constructions réunies sur un même point, à leur dimension, à la constance obstinée qu'a exigé leur fabrication, aux dépenses incalculables de tant de somptuosité. Thèbes était construite sur les deux bords du Nil. Sur la rive est se trouvent les maisons des vivants, de part et d'autre des canaux processionnels qui reliaient les enceintes de Karnak et le temple de Louxor. Ces voies étaient empruntées par les barques sacrées du dieu Amon. Sur la rive ouest, la rive des morts, sont construits les tombeaux royaux, demeure d'éternité des pharaons, ainsi que leur temple funéraire, appelé château des millions d'années, que le dieu Amon venait visiter chaque année lors de la fête de la vallée. Thèbes n'avait jamais été entourée de murailles parce que le Nil et les canaux formaient une masse d'eau qui offrait une défense suffisante. Ville réputée imprenable, elle fut néanmoins dévastée par le roi assyrien Assurbanipal, qui emporta tous les immenses trésors accumulés au fil des siècles, dépouilla ses sanctuaires des statues divines, les dépossédant ainsi de leur élément vital. La ville de Thèbes ne s'est jamais complètement remise de cette invasion, même si elle fut restaurée par les pharaons des dernières dynasties. Alexandre le Grand participa également à l'œuvre réparatrice, puis, à sa suite, la dynastie grecque des Ptolémées. À l'époque romaine, les temples sont peu à peu abandonnés. Une garnison s'établit à Louxor, dont le temple est finalement transformé en forteresse. Après la conversion de l'Empire romain au christianisme, plusieurs églises s'y installent et avec l'arrivée des musulmans, une mosquée y est construite tant et si bien que le temple de Louxor reste l'un des lieux de culte et de prière les plus anciens au monde. Le jugement de Thèbes fut prédit par les prophètes Jérémie et Ézéchiel Et aujourd'hui, les ruines de cette ville idolâtre s'étendent sur plus de 40 kilomètres. La prophétie de Nahum annonce que Ninive n'est pas dans une situation plus favorable que Thèbes, car elle aussi sera entièrement détruite. Je continue le texte. L'Éthiopie et l'Égypte constituaient la force de Thèbes, qui était sans limite. Les habitants de Put et ceux de la Libye faisaient partie de ses alliés. Verset 9. Alors que Ninive n'avait aucun allié, Thèbes en avait tout autour du ventre, pour ainsi dire, et littéralement. En effet, l'Éthiopie que mentionne Nahum englobait le Soudan actuel, la moitié sud de l'Égypte et le nord de l'Éthiopie actuelle. Avec le reste de l'Égypte, cet ensemble formait le royaume d'Égypte. En second lieu, Put représente la côte est de l'Égypte jusqu'à la Somalie d'aujourd'hui et comprenait peut-être aussi une partie de l'Arabie. Troisième allié, la Libye était à l'ouest de l'Égypte. Tout ce beau monde, du sud au nord et de l'est à l'ouest, représentait un peuple immense et une puissance militaire énorme. Et pourtant Thèbes fut mise à sac par les Assyriens. Je continue le texte. Et pourtant elle aussi est partie en exil. Oui, elle a été déportée et ses petits-enfants ont été écrasés au sommet des rues. On a tiré au sort ses hommes les plus nobles pour les réduire en esclavage. On a chargé de chaînes ceux qui gouvernaient tout le peuple. Verset 10. Malgré sa position stratégique exceptionnelle et ses nombreux alliés, Thèbes fut investie par les armées assyriennes. Alors, qu'est-ce qui ferait croire à Ninive qu'elle résisterait mieux à une invasion ennemie? La chute de Thèbes devait encore être dans les mémoires quand Nahum écrit son oracle contre Ninive, surtout que sous le règne du roi Assurbanipal, les Assyriens ont capturé Thèbes à deux reprises. La première fois, ce fut une invasion partielle, mais un massacre tout de même. La seconde fois, Assurbanipal lui-même écrit. Urdamanet monta sur le trône de Tir-Aka et régna sur le pays. Il fortifia Thèbes et y assembla ses forces. Il fit sortir ses troupes contre mon armée pour lui livrer bataille, et il se mit en marche, se confiant en Assur, Sin et les grands dieux, mes seigneurs. Les soldats assyriens le défirent dans une bataille dans un vaste désert, et ils battirent ses troupes. Ils les poursuivirent pendant 1 mois et 10 jours par des sentiers impraticables. Ils s'emparèrent de cette ville dans toute son étendue, et, semblable à un ouragan, ils la bouleversèrent. Avec reconnaissance aux divinités Assur et Ishtar de toute la ville de Thèbes, mes mains prirent l'entière possession de l'or, de l'argent, poussière, de leur pays, des objets de fonte, des objets précieux, le trésor du palais, des vêtements, de grands chevaux, des hommes, des femmes, en nombre infini. Les soldats les emmenèrent et les firent prisonniers. Ils les transportèrent sains et saufs à Ninive, ma résidence, et ils baisèrent mes pieds. Fin de citation. Nahum décrit brièvement le traitement habituel infligé aux villes prises lors d'une conquête et qui était ville incendiée, massacre des jeunes gens, jeunes femmes violées, femmes enceintes et ventrées. C'était féroce, sauvage, barbare et sanguinaire. Dans les villes antiques, les rues convergeaient sur une place publique. C'est là qu'on amenait les enfants et qu'on les massacrait tous ensemble sous les yeux du plus grand nombre de gens pour les terroriser et les intimider et afin qu'ils n'essayent pas de se rebeller contre les vainqueurs et leur restent soumis. Par la même occasion, cette tuerie qui était organisée de façon systématique permettait de supprimer une future génération d'hommes et de femmes qui plus tard auraient pu vouloir se venger. Les nobles devenaient les esclaves des vainqueurs qui les tiraient au sort pour se les partager. Puis ceux qui étaient encore debout après tout ça étaient emmenés en captivité, le plus souvent en cordée. Pour cela, on perçait les lèvres des prisonniers et on leur fixait un anneau. Puis à l'intérieur de celui-ci, on passait la corde qui était tirée par un soldat. Je continue le texte. Toi aussi, à ton tour, tu seras enivré, tu devras te cacher. Toi aussi, tu devras chercher à t'abriter contre tes ennemis. Verset 11. Nahum interpelle directement Ninive comme s'il s'agissait d'une personne à qui on peut adresser directement la parole. Tout comme Thèbes, qui a été puni à cause de son idolâtrie, Ninive devra boire la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie. C'est aussi ce que l'Éternel a dit à d'autres nations comme Édom et à tous les peuples de la terre, ce qui aura lieu à la fin des temps et qui est décrit en détail dans le livre de l'Apocalypse. Je lis deux passages. Le jour où l'Éternel jugera tous les peuples se rapproche à grands pas et l'on te traitera comme tu as traité les autres. Le mal que tu as fait retombera sur toi. Vous avez bu la coupe de l'orgie sur ma sainte montagne. De même, toutes les nations ne cesseront de boire la coupe de colère. Oui, elles la boiront, elles l'avaleront et puis seront anéanties. Car voici ce que m'a déclaré l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main la coupe du vin de la colère et donne-la à boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Fin de citation. La métaphore de l'enivrement qui consiste à être obligé de boire la coupe de la colère de Dieu et à laquelle Nahum fait allusion décrit une calamité sans précédent qui va tellement terroriser les habitants de l'Empire assyrien qu'ils en tituberont. De plus, et comme je l'ai déjà dit, on sait que les soldats chargés de défendre Ninive assiégée étaient à moitié ivres lors de l'assaut par les soldats mèdes babyloniens et Scythes qui réussirent à prendre la ville. Il faut aussi rappeler que les attaquants avaient bénéficié de l'appui de Dieu qui, au bon moment, avait envoyé des pluies diluviennes pour grossir le fleuve Tigre qui se jeta alors contre les fortifications côté nord et les renversèrent sur environ 3 kilomètres. Nahum dit aussi que Ninive devra se cacher, littéralement « tu seras caché ». Effectivement, les ruines de cette grande capitale n'ont commencé à révéler leurs secrets qu'au milieu du XIXe siècle et ces monuments ont été déterrés qu'après d'immenses efforts. Enfin, le prophète dit que, comme les habitants de Thèbes cherchèrent en vain à s'échapper en allant d'un endroit à l'autre face à l'avance de l'armée assyrienne, ceux de Ninive seront dans la même situation devant leurs ennemis. Pendant le siège, les Assyriens ont bel et bien tenté une sortie, mais ils furent arrêtés, durent rebrousser chemin et s'enfermer derrière les murailles de leur ville. Je continue. Toutes tes forteresses sont comme des figuiers tout chargés des premières figues. À la moindre secousse, elles se mettent à tomber dans une bouche prête à manger. Verset 12. Au printemps, les figues de la première récolte se détachent très facilement. Quand elles sont à point, il suffit de toucher la branche pour qu'elles tombent toutes seules. Pareillement, les murailles de Ninive vont s'effondrer d'elles-mêmes au bon moment et sans aucun effort de la part des assaillants, et c'est ce qui est arrivé. La métaphore des figues mûres est utilisée par le prophète Ésaïe quand il annonce la chute de Samarie, capitale du royaume israélite des 10 tribus du Nord. Je lis le passage. « Quant à la fleur fanée qui orne sa parure et qui est située sur les sommets qui dominent la vallée plantureuse, elle sera comme une figue mûrie avant l'été. Celui qui l'aperçoit l'accueille sans tarder et l'avale aussitôt. » Ce sont les Assyriens qui ont cueilli Samarie, mais la ville a mis longtemps à mûrir, puisqu'il a fallu 3 ans de siège avant qu'elle ne tombe, la même durée que pour Ninive. Je continue le texte. « Considère tes troupes, ce sont de faibles femmes, et les portes de ton pays sont pour tes ennemis toutes grandes ouvertes. Le feu a consumé tes verrous et tes barres. » Verset 13. Les soldats assyriens sont toujours décrits comme des brutes épaisses, mais ils étaient également courageux au combat. Cependant, comme ils seront impuissants à résister à l'assaut de leurs ennemis, Nahum les compare à de faibles femmes. Cette métaphore apparaît plusieurs fois dans l'Ancien Testament quand l'Éternel veut juger un peuple. Je lis de passage. « En ce jour-là, les Égyptiens seront comme de faibles femmes. Ils trembleront et s'épouvanteront quand l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, agitera la main contre eux. Les guerriers de Babylone ont cessé de combattre. Ils sont restés à l'intérieur des forteresses. Leur force est épuisée. Les voilà devenus comme des femmelettes. Nahum dit aux Assyriens que les portes de ton pays sont, pour tes ennemis, toutes grandes ouvertes. Les Assyriens ont essuyé plusieurs graves défaites face aux Mèdes, puis aux Babyloniens et enfin devant leur coalition avec les Scythes. L'armée assyrienne a donc dû se replier dans Ninive. L'heure est grave parce que tous les accès qui permettent à la Confédération armée d'accéder au cœur de l'Empire ne sont plus gardés et donc grand ouverts. Cependant, réfugiés dans leur capitale imprenable, les Assyriens sont en sécurité, sauf s'il se produit un événement semblable au tremblement de terre qui renversa les murailles de Jéricho. On connaît la suite. Alors, parlant de Ninive, Nahum ajoute « Le feu a consumé tes verrous et tes barres. » On sait que quand les Assyriens assiégeaient une ville, ils mettaient le feu aux grandes portes en bois qui en fermaient l'accès. Mais les Mèdes et les Babyloniens n'ont pas eu à recourir à ce moyen puisque Dieu leur a livré Ninive sur un plateau, pour ainsi dire, en renversant lui-même ses murailles. Ce n'est qu'une fois la ville prise qu'elle fut détruite par le feu. Et, effectivement, ceux qui ont fouillé ces ruines ont trouvé une très grande quantité de charbon de bois et de matériaux carbonisés, et tout ce qui ne pouvait pas brûler portait les marques d'un feu intense et prolongé. De toute évidence, les toits des bâtiments se sont effondrés sous l'effet d'un violent incendie qui a calciné et réduit en poussière jusqu'aux grosses plaques de gypse des plafonds qui faisait presque 4 mètres de côté et plus de 10 centimètres d'épaisseur. Je continue le texte. « Puise de l'eau en vue du siège, renforce ta défense, va prendre de l'argile, pétris la glaise, mets en état ton four pour fabriquer des briques. » Verset 14. Avec une ironie mordante, Nahum ordonne aux Assyriens de tout préparer pour se défendre. Comme toutes les nations, la Syrie comptait sur les villes fortifiées, leurs garnisons disséminées un peu partout dans leur territoire pour arrêter un ennemi éventuel. Mais les places fortes sont toutes tombées et les troupes qui les défendaient se sont révélées impuissantes. Ayant perdu plusieurs batailles en plaine, les Assyriens se sont enfermés dans leur capitale comme un oiseau dans sa cage. Étant donné qu'ils ne s'attendaient évidemment pas à une telle catastrophe, ils sont pris au dépourvu et tentent en dernière minute de se préparer à soutenir un siège. Dans les temps antiques ainsi qu'au Moyen Âge, quand une ville était assiégée, le besoin le plus urgent était d'avoir une quantité suffisante d'eau potable. Pour cette raison, Ézéchias, roi de Juda, avait fait construire un réservoir et un aqueduc pour approvisionner Jérusalem en eau en cas de siège. Mais de tels travaux n'avaient pas été nécessaires pour Ninive car elle était très bien alimentée par le Cocher, un affluent du fleuve Tigre qui traversait la ville. Cependant, il y avait toujours la possibilité que les assiégeants décident d'en détourner le cours. Après l'eau, le deuxième souci, en cas de siège, était de s'assurer que les murailles d'enceinte étaient toujours en bon état. Et quand un ennemi les endommageait, il fallait les réparer au plus vite. Et pour cela, il était nécessaire d'avoir à sa disposition un stock de briques prêtes à l'emploi. La terre des environs de Ninive était une glaise de très bonne qualité. On y ajoutait de la paille pilée et on la moulait en briques qui séchaient au soleil et devenaient dures en l'espace de quelques jours. Puis elles étaient utilisées pour construire des maisons ainsi que les murs défensifs de la ville. Cependant, les fouilles réalisées dans les ruines de Ninive ont révélé que les Assyriens possédaient aussi des fours pour sécher et durcir les briques plus rapidement en cas de besoin urgent, comme lors d'une brèche faite par un ennemi. Nahum ordonne donc aux habitants de Ninive de mettre en état ces fours qu'ils n'ont guère utilisés jusqu'ici, puisqu'il n'y avait personne susceptible de les inquiéter. Mais les Assyriens ne vont plus pouvoir se reposer sur leurs lauriers, car ils vont bientôt devoir faire face à un siège. Le verbe pour « renforce ta défense » est traduit ailleurs par « réparer ». Les ruines de Ninive ont révélé l'existence d'un mur de renfort qui avait été construit en toute hâte pour combler les brèches ouvertes dans la muraille par un attaquant ennemi, c'est-à-dire les forces combinées des Mèdes, des Babyloniens et des Scythes. Quand Nahum prononce ces oracles, non seulement l'Empire assyrien ne craint rien ni personne, mais il vient d'écraser l'Égypte. À vue humaine, il aurait été impossible de penser que la domination tyrannique de l'Assyrie prendrait fin 30 ans plus tard. Pour être dans le vrai et réussir dans ce qu'on entreprend, mieux vaut croire et obéir aux préceptes de la parole de Dieu plutôt que d'embrasser la sagesse trompeuse des hommes.